Interview.
À l'écoute de RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. Salut Caroline.
Salut.
Tu travailles à la Carline et la Carline a 30 ans.
C'est ça, exactement.
Tu es donc salariée à la Carline, également administratrice, je l'apprenais.
Oui, également administratrice depuis 3 ans.
Parce que c'est une SIC, c'est ça?
Oui, alors SIC, qu'est-ce que
ça? Faut l'expliquer un peu, ouais.
C'est une société coopérative d'intérêt collectif. Donc, grosso modo, ça ressemble pas mal à une SCOP. Une SCOP, c'est une coopérative de production ouvrière, on va dire ça, une coopérative qui appartient à ses salariés. Et une SIC, c'est un peu la même chose, sauf que vous avez également des bénéficiaires de la coopérative à l'intérieur du sociétariat. Et donc, à la Carline, vous avez des producteurs, des salariés et des consommateurs.
Et voilà, l'intérêt que les salariés, tout d'un coup, aient aussi une certaine prise sur l'entreprise, ça, c'est comment tu peux l'expliquer de ton point de vue?
C'est très intéressant parce que du coup, on a une partie de son outil de travail qui nous appartient, donc on est plus investi, je pense. Et on se retrouve à la table du CA avec également des producteurs et des consommateurs. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y a pas un affrontement entre les différents collèges et chacun défend son bout de gras, par exemple autour du prix. Le consommateur veut un prix le moins cher, le producteur veut le prix le plus élevé, et puis le salarié défend sa marge pour être bien payé. Finalement, ce n'est pas du tout aussi caricatural que ça, c'est plutôt on va vers un projet collectif qui est faire circuit court et devenir une coopérative de territoire et proposer une alimentation saine, équilibrée, avec des partages de la richesse qui soient équitables. En tout cas, c'est ce à quoi on travaille. Donc finalement, on se retrouve à travailler pour un même but. À 3.
Ouais, mais bon, comme tu viens de le dire, Caroline, du coup, comment vous réglez ce que tu viens de lever comme problème, là, qui est effectivement évident. Les producteurs veulent être justement payés, les salariés veulent continuer de vivre de leur salaire.
Il y a un truc qui est sûr, c'est que jamais personne ne sera tout à fait satisfait parce que c'est un compromis. Donc,
qui lâche le plus facilement
non,
selon toi?
Je dirais pas qu'on lâche parce qu'on n'a pas des affrontements là-dessus. En tout cas, les gens qui arrivent au CA ou même en AG, finalement, il y a toujours un travail de discussion et de dégrossissement qui fait qu'on arrive à trouver des positions de compromis. Et c'est plutôt quand on est extérieur au projet et qu'on n'a pas suivi toutes les discussions. Particulière qu'on comprend pas forcément, qu'on peut être un peu énervé, mais finalement au CA on se bat pas pour un prix en particulier. Par contre, ce qu'on a mis en place et qui est quand même assez intéressant, c'est que la Carline du coup va quand même bien financièrement et on réalise des bénéfices depuis quelques temps. Et on a décidé qu'une partie de ces bénéfices, il fallait qu'elle soit redistribuée. Donc il y a une partie des bénéfices qui retourne en réserve pour nous garantir notre indépendance. Et voilà, c'est ce qui nous permet, par exemple, de faire un agrandissement en centre-ville et non pas sur la ZAC. Donc ça, c'est quand même important d'avoir de la réserve pour pouvoir mettre en place la politique qu'on souhaite et suivre nos valeurs. Et puis, il y a une partie qui va en don aux associations ou prises de participation dans des entreprises sociales et de l'agriculture bio. Donc, c'est ça qui nous permet de prendre des parts à Diwad, par exemple, ou Village Vivant, qui sont pour nous des sociétés coopératives qui sont importantes et qui partagent nos valeurs. Et il y a une autre partie où on s'est dit, on fait de la redistribution de marge, donc soit pour rendre des produits de locaux producteurs plus accessibles ou pour permettre aux producteurs d'être mieux rémunérés, soit pour permettre des consommateurs d'accéder à des produits de base plus facilement. Donc ça, c'est un travail de redistribution qui va être fait où le CA va proposer à la prochaine AG 5 scénarios différents et où les sociétaires vont pouvoir voter en fait, pour ces scénarios-là. Donc c'est des choses sur lesquelles on travaille et on est content à 30 ans d'arriver à pouvoir faire cette proposition et c'est aussi le fruit d'une... d'une gestion qui a été bien faite et bien menée et qui nous permet après de proposer différents modèles. Donc on est content.
Un point aussi sur puisque tu l'as dit, sur ce nouveau local, parce que quand même, ça, c'était un sacré boulot.
Alors,
c'est grand, c'est vaste, vous avez l'air mieux. Et puis nous, alors, on circule, on se perd, d'abord, alors, pour commencer.
Du coup, oui, vous vous perdez, c'est sûr, parce qu'en fait, on fait le réaménagement du magasin en plusieurs temps pour nous permettre d'éviter la fermeture du magasin. Donc, on a acheté le local à côté du 21 du Viaduc, on avait l'épicerie. En 2017, on a commencé des travaux de rénovation. Donc, on est assez contents parce que ces travaux de rénovation, ils ont été faits en concertation avec les gens du CA, des anciens administrateurs et les artisans. On a aussi pris notre temps, on a libéré du temps à Florent, notre directeur, pour que voilà, il y a un travail d'intelligence collective qui se fasse autour de ça, avec un cahier des charges aussi strict, c'est que les salariés soient associés à l'élaboration de ces bâtiments pour qu'ils soient voilà, intelligents pour nous et que ce soit aussi dans des matériaux écologiques, que ce soit une rénovation intéressante.
Pardon, mais alors du coup, ça veut dire que les salariés, vous projetiez, vous vous engagiez finalement pour un certain temps, parce que si tu mets de l'énergie à aménager un espace, c'est que tu as envie d'y rester, quoi.
Bah oui, bah, on est un peu tous engagés comme ça à la Carline. C'est sûr qu'on a eu pas mal de changements ces derniers temps, d'épiciers qui sont partis parce qu'il y a eu des changements de vie, mais c'est vrai que généralement l'équipe qui est investie à la Carline, elle est plus à 300% qu'à 100%. Donc,
stable, installée dans le coin.
C'est ça
l'idée, quoi. Enfin, c'est ma question.
C'est l'idée. Après, on a des gens qui sont de passage sur le territoire et qui repartent plus tard. Mais la plupart du temps, on est bien investi dans notre travail, quoi.
Bon, et matériaux écologiques, bien sûr. Enfin, voilà. S'il vous plaît.
Exactement. Et donc, c'est assez chouette. Et du coup, en ce moment, on est plutôt sur le réaménagement du magasin, donc la place qu'on a pu libérer dans les anciennes réserves et anciennes bureaux, on les redonne au magasin pour qu'il y ait plus d'espace de circulation. Donc on travaille avec un artisan du coin qui est Olivier Favret sur tous les meubles pour qu'ils soient adaptés en fait à notre utilisation et que ce soit pas un truc standardisé, bête et méchant, évidemment qui coûte un peu moins cher mais qui dure pas dans le temps et qui enlève l'esprit du bois, du vrac, voilà. Donc on prend un peu notre temps, désolé, on vous perd, ça va encore durer 6 mois, je pense, mais bientôt ce sera fini et ce sera stable. Et après, dans nos nouveaux locaux, donc c'est sûr, on a des réserves qui nous permettent de stocker un peu plus, mais pas tant que ça, parce qu'on arrive quasiment à pleine capacité, donc c'est qu'on en avait vraiment besoin. Ça nous permet d'avoir une salle de commande, des bureaux pour l'administratif, d'avoir aussi un bureau où on accueille une accompagnatrice des activités GRAP dans la Drôme. Donc GRAP, c'est un groupement coopératif qui est lié à la Carline. On appelle ça une CAU, une coopérative d'activité et d'emploi, donc, où sont mutualisées des fonctions support comme l'informatique, la compta, la RH, etc. pour plusieurs activités d'épicerie, de transformateur dans l'alimentation bio et de proximité. Donc on accueille Marie-Michel depuis juin 2019 et c'est elle qui accompagne les activités comme Chocolat Lala, par exemple, sur Die, comme le Fournil des Comètes à Oust, comme l'épicerie de Beaufort à Gervan. Donc on est content parce qu'on n'a pas, on ne s'est pas multiplié, on n'a pas créé plusieurs magasins Carline sur le territoire. Par contre, on aide d'autres personnes à se lancer dans l'épicerie ou dans la transformation.
C'était une question, ça, justement, de multiplier ?
Oui, c'était une question parce que, en fait, à un moment, notre magasin, il est arrivé à pleine capacité et on se disait, comment on fait là ? On est trop, on n'a plus de place pour réserve pour le bureau. Est-ce qu'on crée un autre magasin ? Et à l'AG 2015, il a plutôt été décidé, on trouve la place dont on a besoin à Die, mais plutôt que se multiplier et s'agrandir, on va plutôt essaimer. Donc, accompagner d'autres porteurs de projets à se lancer. Donc, ça fait que quand il y a des gens qui ont des projets et qui veulent qu'on les aide à les porter, c'est pas forcément que dans l'épicerie, ça peut être aussi dans la boulangerie, la bière, etc. Maintenant, donc c'est plus au sein de la Carline, mais c'est via notre réseau GRAP, on peut les aider à se lancer là-dedans.
C'est une vraie question. Est-ce que vous êtes... tu parlais de pleine capacité, on parle d'essai, mais est-ce que, par exemple, ça aurait du sens est-ce qu'il y a assez de fournitures, de clientèle pour qu'il y ait une autre Carline, par exemple, à Lucandiva ? Enfin, est-ce qu'en fait, le territoire, vous arrivez à l'arroser ?
Je pense qu'on pourrait, par exemple, créer un magasin à Lucandiva, mais je crois que plutôt la position du CA aujourd'hui, c'est On attend de voir si quelqu'un vient nous chercher pour eux créer un magasin.
Ce serait
à
possible.
Luc et la Carline les accompagnent.
Ce serait possible.
Ce serait possible. Ah oui,
et
tout à
est-ce
fait.
Que pour, au niveau de la clientèle et de la demande, ça aurait du sens? Ça va pas vous retirer?
Non, clairement pas. Je pense que puis même c'est comment dire ça. Ça pourrait aussi soulager, voilà, il y a des jours à la Carline, il y a beaucoup trop de monde. Ça soulage aussi, je pense, d'avoir une autre équipe, un autre magasin à Châtillon, où Luc, on dit, ouais, après...
Est-ce que vous n'agrandirez pas jusqu'à...
Non, là, le dernier agrandissement qu'on a fait, c'était parce qu'on en avait besoin. Je veux dire, dans le bureau, on se retrouvait à travailler à 6. Il y a une administratrice qui compare ça à un taux... de personnes au mètre carré qui est plus élevé que l'élevage de cochons en intensif et en conventionnel. Donc, à un moment, on n'avait plus de place, on jouait au Tetris à chaque fois qu'on recevait des commandes. On avait besoin de place. Ce n'était pas un plan pour faire des sous, c'est pour se développer. C'est juste qu'on a besoin de place. Et maintenant, ça nous permet d'avoir du confort, au moins pour les salariés, et ce n'est pas du luxe. Il ne faut pas croire que c'est du luxe, c'est on en a besoin. Et ça permet également, on a une salle de réunion, d'accueillir nos réunions de CA, nos réunions salariées, et puis de prêter aussi la salle, de la mettre à disposition d'autres associations. Donc ça permet aussi d'avoir plus de résonance sur le territoire et d'accueillir d'autres associations. Donc ça, c'est aussi ce qu'on voulait faire. Après, oui, je pense qu'il y a de la place pour d'autres magasins. Et en tout cas, à ce jour, la Carline, elle est plus... venez nous voir si vous voulez qu'on vous aide, mais en tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas le projet de créer autre chose. Déjà, on va finir notre magasin. Voilà.
Et c'est bien d'entendre qu'effectivement, il y a encore de la place et qu'en plus, vous êtes prêts à soutenir ça. Donc, si des gens nous entendent, pour désengorger la Carline.
pas que désengorger, mais je pense qu'il y a aussi d'autres liens à créer autour de Luc en Diwa. Donc,
oui, on a cité Luc, mais faut pas que les autres se sentent lésés. Hein.
En tout cas, ça existe à la Carline, et c'est pas que les activités de magasins et d'épiceries, c'est aussi toutes les activités de transformation. Et en tout cas, je vous encourage à aller voir un peu plus sur le site de GRAP, donc c'est Groupement Régional d'Alimentation de Proximité. Ils font des super choses. Et maintenant, on a une accompagnatrice des activités de la Drôme qui est à la Carline, qui s'appelle Marie Michel. Voilà.
La Carline a 30 ans, est-ce que tu peux nous en faire l'histoire?
L'histoire? Alors,
comment ça a commencé? Où ça?
Alors, la Carline est plus vieille que moi, ça c'est assez drôle de...
Oui, puis je dis, est-ce que tu peux nous le faire? Parce que ça fait quand même pas si longtemps que tu travailles dedans.
Non, ça fait quasi 4 ans en CDI, et puis avant j'étais en stage 3-4 ans avant. Mais alors du coup, la Carline, ça a commencé, les prémices c'était 87-89, où il y a eu plusieurs personnes qui ont monté un peu des groupements de leur côté. Il y avait Vacher-Anquin, il y avait sur le Diwa, et à un moment, ces gens, il y a eu une confluence de mouvements, ils sont tous regroupés avec un désir en fait, de trouver des produits bio qu'ils ne trouvaient pas sur le territoire. Donc il y avait des produits frais, il y avait du fromage et de la viande, mais vous n'aviez pas vraiment une offre développée de produits d'épicerie bio.
Ouais, même de l'huile, des trucs comme
voilà,
ça.
Voilà, des choses
pas.
Comme ça, il y avait très très peu d'offres. Donc, ils sont groupés pour avoir ces produits-là, mais autour de ça, il y avait quand même la volonté de se ressaisir de son alimentation pour dénoncer aussi les abus, les dégâts causés par l'agriculture industrielle. Et donc autour de l'idée de se ressaisir de son alimentation, il y avait l'envie de promouvoir l'écologie, la santé via une activité collective. Donc, c'était aussi un moyen de se trouver, en fait. Donc, de 89 à 95, il y a eu pas mal de groupements d'achats.
Oui, c'était les gens qui faisaient les commandes eux-mêmes. Enfin, il n'y avait pas vraiment de salariés.
Exactement, il n'y avait pas de salariés. Pendant 14 ans, il n'y a pas eu de salariés à la Carline. Donc, pendant 5 ans, de 90, il y a eu, 90, il y a eu le dépôt des statuts. Et jusqu'en 95, ils étaient dans le local derrière le théâtre de Die, local. Ils allaient chercher, ils passaient leurs commandes. Donc, il y avait par exemple, au début, il n'y avait que des plateformes et des produits, d'épicerie sèche. Ils passaient des commandes qu'ils recevaient donc, soit à la cave à char, soit sur une menuiserie, il me semble, sur la ZAC. Ils allaient chercher les palettes là-bas, ils dépalettisaient, mettaient sur les étagères et les gens venaient faire leurs courses. Après, en 95, c'est devenu vraiment trop petit, donc ils ont loué au Faubourg Saint-Marcel, donc derrière la Carline, la rue en dessous. Là, c'était un petit peu plus grand et c'était un peu pendant, 8 ans, l'âge d'or de la Carline associative. Il y avait, 30 bénévoles actifs. qui avait des permanences quasiment chaque semaine ou toutes les deux semaines.
Et qui tenait le magasin, tout ça.
Qui tenait le magasin. Il y avait 3-4 permanences par semaine, il me semble. C'était assez bien rodé. Et ils commençaient à avoir des produits un peu plus locaux, par exemple, mais toujours pas de frais. Mais ils allaient, par exemple, chercher les flocons de céréales, il me semble, vers Cornillon-sur-Loul, ou la farine vers Cray. Voilà, ils commençaient à se dire « Ah bah tiens, il y a ces produits-là qu'on peut aller chercher en direct. » Donc économiquement, ça n'avait pas vraiment de sens. C'était des bénévoles qui prenaient leur voiture et qui allaient faire, je ne sais pas, une cinquantaine de kilomètres pour aller chercher de la farine locale. Mais en fait, ça a commencé à vraiment développer le lien en direct avec les producteurs et vraiment à se questionner sur l'origine des produits. Donc ça commençait à être intéressant pour eux. Puis il y avait une grosse émulation autour de ça, parce qu'à l'époque, bon, maintenant ça nous semble complètement normal, on va limite acheter de la valeur à travers l'achat d'un produit bio, on exige d'avoir quelque chose d'éthique derrière, mais en fait dans les années 90, ils étaient considérés comme des uluberlus, quoi. Enfin...
Tout à fait, mais plus que ça là, parce que là tu fais ce lien qui est quand même une des particularités de la Carline, c'est pas le cas de tous les magasins bio, ni des grandes chaînes bio, c'est d'être aussi le plus possible local, et ça c'est...
Alors,
tu parlais de ce lien qui commence à se faire, bah voilà, les gens se connaissent très tôt pour dire, bah, en fait...
Mais c'est plus que... Il y a la dimension locale, mais il y a aussi la dimension circuit court. Et les deux ne se rejoignent pas forcément tout le temps. Parce que, par exemple, nous, nos agrumes, on est en circuit court. On n'a pas d'intermédiaire entre nous et la productrice de Sicile. C'est-à-dire, une fois tous les 10 jours ou toutes les semaines, on fait une commande d'agrumes. Ça, c'est un circuit court. Elle est quand même située en Sicile.
Quand il n'y a pas d'intermédiaire...
Il n'y a pas d'intermédiaire où il y a un seul intermédiaire. C'est comparé à un circuit long de commercialisation, comme c'est aujourd'hui la norme dans tous les commerces. Des fois, entre le producteur et le consommateur, vous avez une quinzaine d'intermédiaires, qu'ils soient transformateurs ou coopératives ou marchés de gros, etc.
Racheteurs.
Voilà. Et vous avez une quinzaine d'acteurs. Donc nous, en fait, l'idée d'un circuit court, c'est de limiter ces intermédiaires. Donc, par exemple, pour les fruits secs, on les a en circuit court, mais vous avez quand même deux ou trois intermédiaires entre le producteur et la Carline. Vous avez la coopérative sur place, vous avez le grossiste qui en fait, organise l'exportation et la mise en sachet, etc., pour que les marchandises puissent voyager et tout. Et après, vous avez la Carline. Donc, ça, c'est quand même, finalement, un circuit court entre... voilà, ce type de circuit et un circuit où des fois, pour les fruits secs, vous pouvez en avoir 20 et vous imaginez pas...
Avec les bateaux qui font des allers-retours, qui rachetaient deux fois sur la route.
Ouais, et après, tous les jeux financiers autour de la chaîne de matières premières. Donc, il y a une différence quand même entre produits locaux et produits circuit court. La plupart du temps, ça c'est lié. Mais voilà, vous avez des produits qu'on a en circuit court qui viennent de plus loin que le Diwa. Mais quand même, on va les mettre en valeur parce qu'on a fait ce qu'on appelle du sourcing, c'est-à-dire qu'on est allé chercher ce producteur. Par exemple, récemment, il y a l'huile d'olive d'Andalousie. Donc, c'est une cliente du territoire qui nous a apporté cette référence. On s'est mis en lien, on a travaillé pendant un mois sur la logistique, etc. On a créé des liens, on apprend qui ils sont, etc. Et maintenant, on a des palettes d'huile d'olive en direct d'Andalousie qui arrivent. On sait d'où elles viennent. Ça ne vient pas de la mer de plastique, je vous rassure tout de suite. C'est vraiment des vieux vergers qui ont plus de 100 ans avec des variétés du territoire. Et voilà, là, il y a un lien quand même assez fort qui peut se créer. Et ça, c'est un circuit court, même si ça vient d'Andalousie. Et ça, c'est notre job qu'on a vraiment développé depuis, je sais pas, depuis les prémices du temps associatif, mais vraiment les dernières années, on est un peu devenu entre guillemets professionnel de ça. On a des chargés d'appro et leur job, en plus de faire des commandes, c'est de trouver les producteurs et de créer des circuits courts. Voilà. Et des fois, c'est pas que des producteurs du Diwa, ça peut être de plus loin pour des produits un peu plus compliqués.
Mais il y a un paquet de producteurs du Diwa quand même.
Il y a quand même un paquet
de
producteurs.
Bon, on reprend l'historique. Alors, t'en étais où là ?
2003, donc on était au Faubourg Saint-Marcel. Donc, c'était un peu l'âge d'or associatif. Sauf qu'en fait, finalement, ça s'épure au début. Il y a quoi ? Il y a une cinquantaine de bénévoles. Et puis, en fait, finalement, il en reste une dizaine sur qui tout repose, sur les épaules. Donc, on connaît bien le problème des associations. Au bout d'un moment, les gens, ils sont fatigués. Et ils ont envie que, voilà, il y ait d'autres gens qui portent et qu'eux puissent aussi continuer de soit participer à prise de décision stratégique, soit à aller se reposer un peu. Donc là, à ce moment-là, il a été décidé d'embaucher des salariés. Donc évidemment, il y a eu de nombreuses discussions. Mais si on embauche, est-ce qu'on va pouvoir les payer correctement? On n'a pas envie de faire du salariat au rabais. On n'a pas envie de créer des postes précaires.
L'éthique s'est placée là aussi.
L'éthique s'est aussi placée là. Et du coup, ça complexifie parce que du coup, comment on calcule notre marge pour pouvoir payer correctement un salarié et pas avoir un emploi aidé, avoir un vrai salaire et pas créer de la précarité. Donc là,
Forcément, il allait y avoir une augmentation de prix radicale.
Et je sais pas s'il y a eu. Là, moi, je connais pas l'historique des taux de marge, mais je sais que dès le début, il y avait quand même, même dans les groupements d'achat, il y avait 10 ou 15% de marge, en fait, dès le début. Donc après, je ne sais pas comment il a évolué avec l'arrivée des salariés. Il y a eu aussi d'autres discussions avec la peur de bénévoles de se voir désapproprier du projet, parce que voilà, l'arrivée d'un salarié dans une association, c'est aussi l'acceptation d'un bénévole de laisser la place à d'autres et de lâcher du lait sur quelque chose qui semblait très politique avant. Là, on accepte qu'il y ait quelqu'un d'autre qui ait son espace, son territoire. Donc voilà, il y avait beaucoup de discussions là-dessus et finalement, il a été décidé d'embaucher. Mais ils ont embauché Roger Gaillard, qui avait un licenciement économique et qui était un des bénévoles des premiers temps. Roger est devenu le premier salarié, suivi rapidement de Anka et Marie-Alice. Donc rapidement, il y a eu 3 salariés et ils se sont installés au local rue Auguste Barnot, le nouveau fleuriste à côté de Super U. Et voilà, ça a duré, il me semble, jusqu'en 2008. Donc là, c'est devenu... C'était la première vitrine, en fait, sur l'extérieur, où il fallait toujours être
adhérent,
voilà, pour faire ses courses à la carrière.
Mais voilà, mais pour la première fois, tout le monde pouvait le voir et donc on pouvait devenir adhérent
Et il me semble qu'il y avait 800 foyers en 2008 qui étaient adhérents à la Carline. Il me semble qu'il y avait toujours possibilité de venir participer aux dépalitisations, etc. Il y avait besoin d'aide. Mais du coup, les bénévoles pouvaient déjà souffler un peu et s'occuper davantage de la gestion et du projet politique. Du coup, c'est à ce moment-là ils ont commencé les rencontres de l'écologie, parce qu'au début, les rencontres de l'écologie, ça a été coporté par la Carline. La Carline a apporté aussi de la trésorerie pour permettre aux manifestations de se tenir. Donc, pendant 4 ans, ils ont coporté ça avec le SCDD et d'autres associations du territoire. Et après, ils ont un peu lâché et laissé la place à l'écologie.
Oui, il y a une association qui s'est créée. Voilà, c'est ça.
Voilà, ouais. Exactement. Mais du coup, ça a permis aussi à l'équipe d'administrateurs de s'occuper aussi des projets politiques, de tout ce qu'il y avait autour de l'alimentation bio et de le promouvoir d'une autre manière.
Et le fait qu'il y ait cette vitrine aussi, ça a dû augmenter l'activité de la Carline.
Je pense parce que c'est arrivé quand même à 800 familles adhérentes, donc c'était quelque chose. Et voilà, il y a les anciens bénévoles qui me racontaient il n'y a pas longtemps qui s'étaient fait engueuler par le comptable, qui disaient « Mais en fait, là, vous avez une véritable petite PME dans les mains, ça ne va pas, là, ça ne va pas. » Il faut une autre gestion que la gestion associative, en fait. Ça faisait très peur à l'époque. Donc ça marchait bien. Et puis, en même temps, il y avait la volonté de certains administrateurs d'aller plus loin, en fait, dans la réalisation de projets économiques et de dire « Mais en fait, là, il y a un modèle à trouver. Il y a quelque chose à faire. On pourrait aller plus loin dans, comment dire, créer un instrument économique vraiment éthique et alternatif à ce qui se fait aujourd'hui. Et ce n'est pas l'association qui va nous permettre ça. C'est peut-être quelque chose de plus sérieux. » Donc, il y a eu pendant 3-4 ans des réflexions autour du statut. Est-ce qu'on passe en coopérative? Laquelle? Etc. Et finalement, en 2008, ils ont fait une AG à Vacher. Ils ont décidé de passer en SIC. Donc voilà, société coopérative d'intérêt collectif, qui permettait en fait aux salariés d'être encore plus impliqués dans leur travail. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ils participaient aux AG, aux CA, mais sans droit de vote. Et là, il y avait le droit de vote.
Est-ce que c'est les salariés qui ont poussé cette histoire de SIC?
Non, c'était même les bénévoles et les administrateurs qui souhaitaient que les...
Donc il y a eu des études comme ça sur les différents statuts possibles pendant une période.
Voilà,
il
y a eu plusieurs statuts qui ont été regardés. Et puis il n'y avait pas le désir de passer en SCOP parce que ça voulait dire que les consommateurs qui étaient à l'origine du projet n'auraient plus été au CA ou auraient pu y être, mais de manière minoritaire. Et en même temps, comme il y avait de plus en plus de produits bio locaux et de producteurs qui déposaient leurs produits, il y avait une volonté aussi de les reconnaître et de leur permettre de participer à la gestion et à la gouvernance. Donc finalement, là, ce projet à 3 pattes, ça a été celui qui a été retenu et c'est ce qui fait aussi l'identité de la Carline aujourd'hui. Donc, ils sont passés en SIC en 2008. Et en même temps, le local était devenu beaucoup trop petit. Donc, ils ont cherché un nouveau local. Ils ont trouvé celui rue du Viaduc. À la base, l'idée, c'était de le louer. Et puis finalement, ils l'ont acheté. Et là, il y a eu une espèce d'épopée pendant, 8 mois, 1 an, où il y a eu 5 administrateurs qui ont passé leur vie à la Carline à refaire un beau bâtiment, à le
rénover. Faire les enduits et tout.
Les enduits, mais pas que, à faire des voûtes. Parce qu'au début, il y avait.
Tu peux les citer, hein, ces administrateurs.
Si alors, il y avait Jean-Claude Jarja, ancien maire de Boulc. Il y a Étienne Fournier.
À Barnave.
À Barnave. Il y a Oda Schmidt, donc éleveuse de chèvres à Vacher-en-Quin. Il y a Pierre-Olivier Guichard, qui est postier. Et puis, vous avez aussi. Il y a Roger Gaillard qui était toujours là encore. Et vous avez aussi des artisans qui se sont vraiment mouillés dans l'affaire et vraiment bien investis. Et du coup, c'était l'entreprise BBC, je crois, donc avec Philippe Bompard et Pascal Batman et le troisième que j'ai oublié. Et donc, eux, ils sont vraiment investis. Ils ont vraiment réussi à bien se coordonner avec les...
Entreprises qui n'existent plus.
Non, mais ils sont toujours sur le territoire et on les voit passer. Et c'est eux qui ont aussi amené l'idée de faire des voûtes et pas des plafonds plats. Et c'est aussi... Nous, on a des magnifiques photos. Ils sont vraiment éclatés. Ils se sont vraiment réappropriés le bâtiment. Et c'est aussi l'identité de la Carline aujourd'hui. C'est qu'il y a eu un gros travail sur les bâtiments. Donc, merci à eux. Donc ça, c'était en 2009 et à partir du moment où la Carline s'est installée au 21 rue du Viaduc, ça a quand même beaucoup changé parce qu'en coopérative, donc plus besoin d'acheter une adhésion chaque année, mais on demandait aux gens de prendre des parts au sociétariat. Donc il y avait trois...
Et c'est pas une obligation sur, sur tout ça. C'est-à-dire et que là, vous devenez quand même, pour le lambda, vous êtes un magasin, point.
Voilà.
On y va, on va acheter du bio donc, là-bas. Et...
Donc on a décidé, en fait, ils ont décidé d'ouvrir le magasin à tout le monde. C'est-à-dire que voilà, la personne qui connaît pas du tout la Carline qui vient faire ses courses...
Le touriste.
Et touriste est la bienvenue comme tous les autres. Donc c'est magasin. C'est pour ça que le slogan, c'était la Carline... une épicerie pour tous ou le bio pour tous,
le
en fait.
Tous,
donc
ouais.
Aujourd'hui, on confond avec le slogan de Satori, le bio pour tous, mais ce n'était pas du tout la même chose. C'était juste pour dire maintenant, le magasin, c'est ouvert à tout le monde. Quoi. Mmh. Et donc, en fait, dans nos constructions de prix, les prix qui sont les remises, etc., qu'on met à chaque fois sur nos produits sont valables pour tout le monde, qu'on soit sociétaire ou pas sociétaire. Voilà. Donc, ça a donné vraiment une autre portée, en fait.
Et là, des sociétaires, il y en a beaucoup. Là, tu en parlais de 800 familles bénéficiaires. Vous êtes à combien de sociétaires ?
300.
C'est pas mal.
C'est pas mal, mais c'est plus pareil, parce que du coup, les gens ne vont pas forcément prendre des parts. Donc, pour devenir sociétaire, il faut prendre, pour un consommateur, il faut prendre 5 parts. Donc, une part, c'est 20 euros. Donc, entrer dans le sociétariat maintenant, pour un consommateur, c'est 100 euros. Pour un producteur, il me semble que c'est 200. Un salarié, on nous prend 1% de notre salaire chaque année. C'est quand même pas rien. Et puis après, vous avez aussi des adhésions pour les associations et membres de soutien. Donc, voilà.
Vous faites d'ailleurs campagne sur ça ? Enfin, le sait-on ?
Eh bah, bien, en fait, on ne sait pas assez de choses sur la Carline.
Ouais,
on s'est rendu compte qu'on parlait... Voilà, on avait quand même un truc où il ne fallait pas trop parler de nous. On était plus occupés à faire.
Pourquoi ?
Notre premier métier, c'est l'épicier. C'est l'épicerie. Donc voilà, on va plus se concentrer sur faire épicerie, sur avoir une bonne ambiance d'équipe, sur essayer de trouver des arbitrages qui soient éthiques dans notre magasin. Et du coup, c'est vrai qu'on ne s'est pas beaucoup occupé de la communication et on se rend compte que beaucoup de gens ne comprennent pas notre fonctionnement, en fait. Donc c'est sûr que l'année prochaine, on a décidé de dégager un petit peu d'heure pour communiquer plus sur ce qu'on fait, qui on est, etc. Et aussi faire de l'animation, se permettre d'avoir des soirées de débat autour de sujets qui nous touchent. Et on commence déjà avec les 30 ans à vous proposer des choses comme ça. Et en tout cas, voilà, depuis 2009, on s'est beaucoup plus professionnalisé sur comment créer des circuits courts, des filières, comment on fait réseau avec d'autres sans perdre notre indépendance et notre identité. Donc, en fait, c'est comme si on avait mis en place aussi tous les projets qui avaient été décidés au moment de la création de la coopérative. Donc, voilà, c'est beaucoup de choses qui nous prennent du temps. Le bâtiment nous a pris du temps et voilà.
Tu as cité Satori, on va pas citer les autres, mais puisque tu l'as dit, mais il y en a plein. Est-ce que vous êtes en lien avec ces grandes chaînes? Avec celui qui est surdit aussi. Enfin, c'est quoi vos...
La Vie Claire, par exemple.
Ouais. De quelle manière il y a quand même quelque chose...
Non, on n'est pas en lien. Je dirais que le seul lien qu'il peut avoir, c'est la défense de la distribution de produits bio à travers les magasins dits spécialisés et non pas les grandes surfaces. Parce
qui
c'est
en
vrai
font
que
un peu dans leur rayon, c'est ça.
C'est des choses quand même vraiment, vraiment différentes. Après, c'est sûr que la Carline, on est un peu un ovni parmi les magasins bio spécialisés parce que Mais comme les autres petites épiceries bio, par exemple comme celle qui vient de se monter sur Dix, la toute dernière, parce qu'en fait, on n'appartient pas à des chaînes, en fait. On est resté indépendant et nous, on est un magasin associatif qui est... Enfin, pas associatif, mais coopératif, qui appartenons aussi à nos clients, à nos producteurs et nos salariés. Donc, c'est quand même complètement différent de chaînes comme Satori ou La Vie Claire, où ils font parfois des belles campagnes en disant « on est la bio indépendante », mais il faut juste voir qui sont les actionnaires de ça. Ce n'est pas des sociétaires, ce sont des actionnaires, donc il y a rémunération du capital quelque part. Donc le modèle qu'on propose, il est quand même vraiment différent, quoi. Si vous voulez râler, vous pouvez venir à l'AG, vous pouvez venir au CA, la porte est ouverte, quoi. Donc, c'est... Puis voilà, la question du rémunération du capital, elle est quand même vraiment clivante aussi dans nos modèles parce que nous, à la fin, il n'y a pas de capital qui est rémunéré. Je veux dire, moi, j'ai...
Oui, être sociétaire, il n'y a pas d'avantage.
Ouais, voilà, moi, ça fait 4 ans, du coup, il y a une partie de mon salaire qui va dans le capital de la Carline, on va dire, et quand on fait du bénéfice, je ne suis pas rémunérée là-dessus.
Si tu t'en vas, tu le récupères, ce capital ?
Je peux récupérer, mais il n'y a pas de... il n'est pas valorisé.
En fait, oui, tout ce que j'aurais mis, il sera pas plus cher.
Et je crois que je peux le récupérer au bout de 5 ans ou quelque chose comme ça. Donc l'idée, c'est plutôt de, voilà, les bénéfices, ils retournent dans la Carline, ils permettent de développer l'épicerie, la coopérative, mais également le territoire, quoi. Mm-hmm. Et c'est vraiment, c'est aussi en ça que c'est vraiment différent des autres magasins, quoi.
Et là aussi, il y a un circuit économique court, du coup.
Voilà, c'est en fait, il y a plusieurs définitions du circuit court, et il y a le labo de l'ESS qui en donne une définition, et c'est exactement ça, en fait. Mm-hmm. Le circuit court, c'est aussi faire de l'économie locale et pas que sur l'alimentation.
Voilà. En sortant une partie du capital qui donc n'est pas dirigé par le capital lui-même.
Bah voilà.
Parce que là, vous gérez votre propre fonds en décidant où est-ce qu'il va, quelle marge de bénéfice se fait, comment est-ce qu'on rend...
De toute façon, les marges, c'est pas compliqué. Nous, c'est assez transparent là-dessus. Il y a 2 types de marges. Il y a une marge qui est... à 29% sur les produits en direct du producteur et locaux, et il y en a une autre qui est à 31% sur les produits de plateforme de grossistes. Et c'est tout. Et on ne va pas aller jouer le jeu du commerce habituel de mettre des marges à 60% sur certains alcools, cosmétiques, etc. Et d'autres à 10% sur du beurre et produits d'appel, comme on dit. Là, c'est le même taux pour tous. La différence, c'est entre plateforme et produits circuit court. Donc, d'une certaine manière, quand vous voyez les prix, ça reflète aussi la production qu'il y a derrière, quoi. C'est assez transparent. Ça peut être très frustrant par rapport à d'autres magasins comme Satori qui, eux, peuvent avoir des taux de marge complètement variables et savent faire pour attirer les
consommateurs.
Et puis
ça change toutes les semaines. Enfin...
Et voilà, et ça change toutes les semaines, etc. Et écrit promo en gros. Donc pour un consommateur, le système de la Carline, vu comme ça, des fois, il peut être assez frustrant. Mais c'est aussi pour ça qu'on va mettre en place un repartage de la marge qui est réalisée, mais qui sera peut-être pas faite sur. Tiens, le produit d'appel, on le marge moins. Ce sera peut-être un peu plus réfléchi que ça. Eh ben, on va peut-être travailler sur le circuit, d'où est-ce qu'il vient ce produit, comment il a été fait, est-ce qu'il est éthique, entre guillemets, voilà.
Quand on parle d'un produit d'appel, c'est celui qui est le plus vendu ?
Ouais,
c'est quoi votre plus vendu à la Carline ? Juste comme ça, à titre... lait de riz, non ?
Non, c'est pas le lait de riz, je pense que c'est les œufs. Ah, les œufs ou, notre grande honte, les bananes. Donc, il me semble qu'après les bananes...
Pourquoi vous n'êtes pas bon sur le circuit banane ?
Si, on est très bon. C'est peut-être le produit qu'on vend le plus à la Carline.
Oui, mais je veux dire, le circuit que vous avez créé pour avoir une banane n'est pas terrible. Pourquoi
impossible.
Votre grande honte ?
Notre grande honte, déjà, c'est que la banane, ça vient d'un autre continent, ça prend le paquebot, quoi.
Oui.
Et puis aussi que pour faire un circuit court sur la banane, c'est quasi... impossible, parce que pour faire venir les bananes, il faut remplir un conteneur entier. Donc en fait, même, je vais vous dire, même Satori ne pourrait pas faire une filière courte de bananes. Il faudrait se lier avec plein d'autres magasins spécialisés. Donc franchement, c'est notre rêve. Je pense que c'est notre rêve si un jour on arrive avec les magasins grappes et éventuellement Biocoop à faire une filière courte de bananes. On sera aux anges, mais vraiment là, c'est le crux, c'est l'ambition du siècle, quoi. Voilà. Mais après, voilà, il y a d'autres produits qu'on a en circuit court qui sont dans les plus vendus. Ça va être l'orange, par exemple, de Sicile. Là, elle est, je crois que c'est le 3e produit le plus vendu. Avant, on avait les œufs, mais les œufs, notre producteur a arrêté d'en faire parce qu'il a eu des... c'était trop compliqué au niveau sanitaire. Il a eu des contrôles abusifs et compliqués. Donc, on a perdu notre producteur d'œufs et on est en train de travailler à une nouvelle solution pour avoir des œufs en direct. Et voilà.
Alors, 30 ans, la Carline, vous proposez, vous offrez, j'allais dire, une fête à qui veut, au Théâtre de Die.
C'est ça.
Ce 14 décembre.
C'est ça.
Samedi.
Exactement. Donc, samedi prochain, on ouvre les portes du théâtre pour proposer à n'importe qui de rencontrer la Carline, de comprendre un peu plus l'histoire, de voir où on en est aujourd'hui.
Pardon, mais est-ce qu'il y a eu des fêtes tous les 10 ans ?
Ah non.
Non, donc c'est la première fête de la Carline, non ?
Mais j'étais pas là. Non, je crois qu'ils ont fait quelque chose pour les 20 ans, mais je sais plus ce que c'était. Bon. Ouais. Mais après, il y a toujours aux âgés un moment festif où on se réunit, on fait la fête et tout. Mais là, c'est vraiment l'idée d'aller toucher vraiment plus loin que nos simples sociétaires, aller toucher les clients et même pas que les clients. C'est aussi proposer un moment pour ceux qui voient la Carline dans le paysage de juste venir faire la fête et d'avoir le moyen de juste se renseigner s'ils le veulent et s'ils le veulent pas, tant pis.
Ouais. Mais et profiter des concerts, de tout ça.
Voilà, exactement. Donc ça commence à 16h avec une expo photo sur l'histoire de la Carline avec les gens qui ont beaucoup compté et les différentes phases de l'histoire qui sont expliquées.
Vous l'animez cette expo ? Vous allez être là pour la commenter ?
Ouais, on aura les anciens bénévoles administrateurs qui vont être là. C'est pas moi qui vais la présenter,
eux qui vont
en discuter. Donc c'est tout, évidemment, une exposition, c'est partiel. Hein. On a pris quelques moments, on a pris quelques photos, mais ce qui va surtout être intéressant, c'est la restitution orale et les nombreuses anecdotes qu'ils ont à transmettre. Donc ça va être chouette. À 16h30, on a un spectacle de clown décalé et burlesque sur l'histoire de la Carline. Donc là, c'est un peu comme un conte de fées clownesque. Donc c'est ouvert aux enfants, mais c'est aussi...
Une créa spécialement pour ça.
Spécialement pour ça. En fait, on avait déjà fait travailler. Donc c'est Blandine et Samuel Reynaud qui ont construit ce projet. Ils étaient déjà intervenus à deux âgés de la Carline pour, en fait, si vous voulez... faciliter le processus de l'AG où des fois il y a des matériaux un peu lourds à comprendre et pour rendre la chose plus légère, on les fait un peu intervenir avec des scénettes humoristiques et ça permet en fait de répéter ce que le directeur a peiné à nous faire comprendre et à mieux assimiler. Donc on essaye de faire des AG plus
c'est
fluides.
Excellent.
Et là, du coup, comme ils ont vraiment une grosse inventivité, on a décidé spécialement pour les 30 ans de leur faire faire ce spectacle qui sera reconduit avant la prochaine AG également. Et donc, on conseille, c'est ouvert aux enfants, mais c'est surtout ouvert aux parents, aux adultes qui ont envie de comprendre en fait ça vient d'où, c'est quoi ce projet. Je crois que ça va être vraiment très, 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 très drôle et très pertinent. Donc, je vous conseille vraiment de venir. Et puis après ce sera suivi d'un débat sur en termes scientifiques, la résilience alimentaire du territoire. Et en d'autres termes, c'est on fait une table ronde qui est animée par une journaliste, Lise Barnéou, avec quatre producteurs du territoire et Florent Dunoyer, notre directeur, pour questionner la construction des circuits courts. Donc, montrer aussi le travail qu'on fait derrière et montrer aussi quatre modèles de producteurs vraiment différents dans des domaines différents. Donc, il y aura une productrice de viande à Montlahuc, un producteur de farine et huile du Diwa, un producteur, donc le gérant d'une SCOP, la SCOP Les Volonteux, où ils font légumes et fruits, qui est basée à Beaumont-les-Valences, et un producteur de patates et céréales qui est situé à Clèles et qui approvisionne une partie des patates de la Carline. Donc, c'est des gens qui sont situés... qui sont en local, entre guillemets, selon la définition nationale du local, et qui sont soit dans le Diwa, soit en bordure du Diwa. Donc avec qui on a des liens assez resserrés. Ça permet de voir des modèles de production différents et modèles de commercialisation différents et de questionner le tout. Donc je pense que ça va être très intéressant.
Vous, par exemple, vous avez une statistique probablement sur le fait que, est-ce que déjà, on pourrait être en autonomie alimentaire bio sur le Diwa ?
Alors si vous buvez que de la clairette et mangez que de la lavande, ouais. Certainement. Ou mangez beaucoup de viande et beaucoup de fromage, il n'y a pas de problème. Je pense qu'on peut être en autonomie alimentaire. Mais
ça manque de légumes et de céréales, quoi.
Ouais, c'est vraiment compliqué. C'est compliqué pour tout ce qui est légumes et fruits. Non, céréales, ça va encore au niveau de la production du blé. Je pense pas qu'on arrive à être en autonomie, mais quand même, ça va. Mais plutôt en termes de fruits, voilà, les pêches, on en a dans la Drôme, mais on n'en a pas dans le Diois. Après, je pense qu'on peut se passer de pêche. Mais les pommes, ça peut être très compliqué ces dernières années avec le gel. Donc, on a parfois des saisons merveilleuses de pommes et d'autres années, c'est vraiment très compliqué. Donc, on est quand même, nous, on est liés à un producteur de pommes à Loriol et qui nous fait une partie de notre approvisionnement parce que le Diois, c'est encore trop fragile. Après, sur tout ce qui est légumes, et bah, la terre du Diois, elle est compliquée, elle est très argileuse. Donc, essayer de faire pousser des carottes dans le Diois, c'est quand même super compliqué. Donc, je ne sais pas, on ne sait juste pas si on arriverait à fournir les 11 tonnes de carottes qu'on fait à l'année avec
Aïe,
les carottes diouaises. Et ben, il faudrait qu'on plante des champs de carottes. Et je pense qu'on aurait vraiment du mal, techniquement, à le faire. Mais ça, c'est plutôt au maraîcher du Diois de répondre à
faut
ces
importer du
questions-là.
sable.
Voilà, c'est assez complexe. Donc nous, enfin moi, juste pour avoir été chargée d'appro fruits et légumes, je sais qu'aujourd'hui, on n'arrivait pas. Notre but, c'est d'essayer que le plus possible de nos légumes soient produits sur le territoire. Et on n'arrivait pas, en tout cas, à trouver ça. On y travaillait, mais c'était pour l'instant trop compliqué. Voilà.
Ce débat, donc nourrir le Diois en bio et local à 18h. Et tout le long de l'après-midi, il y a les jeux de la Coopère quand même.
Ouais.
Je
bah ouais, on a
lis en même
pensé.
temps, parce que je ne sais pas si tu allais oublier, mais je le
Non, j'ai
dis.
pas oublié.
Avec un
c'est
coin enfant.
voilà.
Miam
Alors, il n'y aura pas de babysitteuse, donc on compte sur les parents pour quand même
Pour gérer le coin
surveiller.
enfant? Oh zut!
Il y aura des jeux, il y aura des animations de la Coopère, mais on compte quand même sur les parents pour surveiller leurs enfants. Et oui, l'idée, c'est quand même que les familles puissent venir et participer à ces débats, notamment aux familles qui viennent un peu à la Carline et qui auront les enfants. Donc, il y aura un coin pour les enfants. Et voilà, après, il y aura une petite restauration avec la fécarambole, un stand de frites fermières.
Et c'est vous qui l'avez assuré d'ailleurs, ça j'ai su.
Ouais, alors je sais pas comment on va faire. J'ai très
Vous
peur.
faites des frites.
Mais on va faire des frites. On va aussi tester peut-être les frites de butternut et patates
Donc le
douces.
producteur de Clel vient
Ouais,
avec un camion plein pour
exactement.
faire
Une
son
petite
débat.
palette. Il va descendre une petite palette de patates Kuroda et on va se tester aux frites. Voilà.
Et...
Et puis voilà, après il y aura bar et puis concert à partir de 20h30 avec le groupe Surfing K. Donc c'est du swing rock. Et après Total Chicken. Que vous devez bien connaître.
Voilà, et Surfing K, ils viennent de Marseille, je
Non,
crois,
alors il
c'est
y a un
ça. Ah, il y
musicien
en a un
qui
qui est
vient de
ici,
Die, en fait,
ouais. Il y en a un qui est
c'est
là,
pour
ouais.
ça on a voulu faire du
Bah oui.
local, mais que du 100% local, parce qu'il fallait aussi vous montrer des choses que vous ne connaissez pas, sinon, voilà.
Et c'est gratuit.
Alors, c'est pas gratuit,
Ah.
c'est une soirée prix libre.
Très bien.
Donc après, voilà, c'est chacun participe aussi selon ses moyens et.
Vous sensibilisez à ce prix libre, vous allez l'expliquer et
Bah oui,
comment?
on va l'expliquer. Alors, je ne sais pas qui va s'en occuper, mais on va l'expliquer, mais on ne va pas faire un prix suggéré parce que ça, c'est un peu complexe de proposer ça. Ce n'est pas un vrai prix libre, un prix suggéré. Donc, on va l'expliquer. Bah, l'idée, c'est quand même de payer bien nos artistes. Ils ont aussi des retraites à payer. Voilà, on n'a pas envie de les faire bosser au black. Et puis, il y a aussi le théâtre qui nous accueille. Donc, c'est surtout ça, quoi.
Bon partenariat avec le théâtre?
Ouais, super. Nouveau directeur, super.
On a tout dit, Caroline?
Je crois qu'on a tout dit et puis bah, on vous attend nombreux samedi pour le débat, le spectacle et puis juste danser et faire la fête.
Dès 16h. Et nous, on vous attend régulièrement à la radio pour avancer
Ouais,
sur
on va
cette
essayer.
com.
On va faire des efforts.
Par thématique, tout ça. Non, mais je ne sais pas si les gens, par exemple, savent que vous éditez aussi une newsletter qui, tout d'un coup, nous tient au courant que bah, vous passez au vrac,
Ouais.
qu'il y a telle ou telle nouvelle orange de Sicile qui débarque, etc. Et ça, c'est des choses qui...
Bah, c'est sûr que notre com, elle passe surtout par la newsletter et on a, on va dire, 1000 abonnés et on n'en fait pas beaucoup la promotion. Donc, sûr qu'à la rentrée, on va essayer de travailler sur des panneaux explicatifs à la Carline. Essayer de, voilà, bon, nos murs, là, ils sont bien blancs. On va essayer de remettre pas mal de com et de préparer les AG, de faire des soirées débats un peu plus poussées sur des thèmes qui nous sont liés. Donc, voilà, c'est à venir. On va construire un programme
Débat
pour.
public du coup, hein.
Oui, bah,
Ou ouais,
débat
voilà,
ouvert à tous.
conférence.
Moi, j'aimerais bien faire quelque chose sur la biodiversité dans l'agriculture, parler des semences, semences hybrides, semences population, en invitant aussi bah voilà, des paysans qui travaillent avec les deux et qui sont obligés de faire des compromis au quotidien pour vivre. Et puis voilà, ou la question de la mécanisation, faire quelque chose avec l'atelier paysan. Donc on a quand même plein d'idées, c'est juste que voilà, comme notre premier métier c'est l'épicerie, on ne peut pas tout faire.
Bon, bah vous prendrez 5 minutes pour venir nous voir quand même.
Ça marche.
Merci okay. Caroline.
Merci Baptiste.
Et bon anniversaire.
Merci. Interview.
Ok, le beurre. L'interview du jour.